Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, votre podcast sur les entrepreneuses créatives et les loisirs créatifs. C'est déjà le 20e épisode en un peu plus de 6 mois. Je suis vraiment ravie que vous soyez au rendez-vous, merci énormément. Si vous ne connaissez pas encore le podcast, je vous souhaite la bienvenue. Le concept en quelques mots, c'est de partir à la rencontre des artistes qui nous passionnent, qu'ils soient aquarellistes, illustrateurs, fans de couture ou de broderie, et la plupart du temps, ils en vivent ou sont en train de lancer leur activité. On explore donc toutes les facettes de cette vie qu'ils se sont créées, la création évidemment, leurs inspirations, mais aussi la communication, la gestion, la logistique, etc. Les créatrices nous livrent leur parcours et beaucoup de conseils. Aujourd'hui, on est avec deux créatrices et poètes. Émilie a créé la marque Carrasco et elle est artiste cyanotype. Auréliane, de son côté, a créé la marque La Presqu'ilienne et brode sur du papier. Elles se sont connues sur Instagram, sont toutes deux lyonnaises et ont décidé de travailler ensemble autour d'un projet commun, la collection sur le fil. Ce que j'ai adoré découvrir, c'est que chaque élément qui compose leur travail respectif et leur collection commune a une histoire. Des feuilles de papier aux végétaux, en passant par le fil et le bois utilisé, tout a un sens et une histoire bien précise, chérie et superbement racontée par Émilie et Auréliane. De formation littéraire toutes les deux, les mots ont une importance particulière pour les deux amies. Vous l'entendrez, on a parlé un peu de la situation actuelle qu'on traverse avec le coronavirus, mais on a enregistré tout début mars, donc on n'était pas encore confinés. J'ai énormément apprécié enregistrer cet épisode avec Auréliane et Émilie. J'ai adoré les écouter parler ensemble de leur création, de poésie, de sensibilité, de leur amitié. C'était beau et ça m'a laissé souvent sans voix. Merci à elles pour leur partage. Je vous laisse écouter la conversation en espérant que vous aussi vous tomberez sous leur charme. Bonjour Auréliane, bonjour Émilie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Fait Main. Est-ce que je peux vous laisser peut-être vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors bonjour Mélanie, bonjour Auréliane. Je suis Émilie, la créatrice de Carrasco, je suis artiste cyanotype, donc c'est une technique de photographie par le soleil, je travaille avec la nature. Donc je travaille les végétaux avec le soleil et l'eau. C'est une technique assez magique qui donne des empreintes blanches sur fond bleu de Prusse. Et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça et c'est mon projet.
Super. Super. Auréliane ?
Alors, je vais essayer de faire aussi bien qu'Émilie. donc, je suis Auréliane, je suis lyonnaise depuis 20 ans maintenant. J'ai toujours touché à tout au niveau des arts créatifs manuels. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai créé la Presqu'ilienne. Alors, la Presqu'ilienne existe depuis bien 15 ans maintenant, mais elle a été concrétisée l'année dernière avec une collection de broderies sur papier. J'ai commencé avec les ex-votos et puis j'ai déroulé le fil finalement et je suis partie sur les végétaux. Je suis partie sur la skyline de Lyon puisque je suis vraiment lyonnaise de cœur. Donc voilà, l'histoire est aux prémices finalement et on déroule le fil tout doucement, voilà.
Génial, et pourquoi tu dis que ça fait 15 ans que la Presqu'ilienne existe ?
Le surnom de la Presqu'ilienne m'a été donné par des amis de tout d'accord. Coup, était sur la Presqu'île et je ne traversais ni Saône ni Rhône. Donc c'était la grosse blague à l'époque, c'était tiens, Renouveau reste en 6e, ah ben non on peut pas, il y a Auré ce soir, donc effectivement c'était la boutade et puis donc j'avais cette idée de la Presqu'ilienne et je savais pas quoi mettre dedans parce que j'ai une formation de tapissière, de couture, enfin j'ai toujours créé, j'ai toujours fait des petites collections qui sont restées entre amis, des choses à offrir et puis jamais passé le cap. Donc le cap a été passé il y a 2 ans parce que j'ai poussé une copine à moi à se lancer artistiquement parlant. Elle m'a dit d'accord, j'y vais, mais t'y vas aussi. Donc j'ai commencé comme ça finalement avec la Presqu'ilienne.
D'accord. Et donc vous vous êtes rencontrées comment pour former ensemble la collection sur le fil ?
Émilie, est-ce que tu as de meilleurs souvenirs que moi ?
Alors on s'est rencontrées sur Instagram déjà. Il y a eu un espèce de petit coup de cœur mutuel. Et puis, on s'est rencontrés, enfin, j'étais venue te voir, Auréliane, sur un événement, au printemps dernier, en fait.
Les jolis jours.
Et, ouais, au joli jour, exactement. Et là, il y a eu encore un coup de cœur quand on s'est rencontrés vraiment. Et il y a eu une forme d'évidence quand on a échangé sur nos inspirations. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire entre la cyanotypie et la broderie. Surtout que, donc, moi, je travaille avec le soleil. Et Auréliane m'a dit j'ai un film qui s'appelle Le fil de lune. Et là, on s'est mises toutes les deux à se raconter des histoires entre le soleil et la lune. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à tisser toutes les deux. Et ça s'est fait tout naturellement. Du coup, il y a
c'est ça, je crois que t'es passé le vendredi. Le vendredi, t'es passé, on a discuté. J'ai dit, tu sais quoi, je te ramène une feuille de mon papier. Et le lendemain, ouais. Tu passais récupérer la première feuille de papier pour commencer tes essais cyanodip.
Et après, s'en sont suivis des allers-retours, justement, de part et d'autre de la Saône, pour nous échanger le papier, le cyanotype, le fil. Ouais, c'est une belle aventure.
Et donc, alors, ça a démarré quand donc, c'est tout frais, quoi. C'est l'année dernière.
L'été dernier, véritablement.
D'accord.
L'été dernier, pour vraiment la partie vraiment créa, ouais, c'était pendant l'été.
D'accord. OK. Et alors... du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire, vu qu'on est que sur l'audio, est-ce que vous pouvez nous décrire les créations que vous réalisez ensemble ? Et puis après, chacune nous parlera de son propre travail.
On peut faire les différentes étapes, parce qu'effectivement, c'est un, oui. Un yo-yo, finalement, entre Émilie et moi, sur chaque oui. étape.
D'accord, alors, vas-y.
Première étape, c'est le papier. Donc, le papier, c'est moi qui l'ai, c'est un papier artisanal. L'histoire est rigolote, je ne sais pas si vous avez lu, enfin, Émilie, je sais que oui, mais ce livre qui s'appelle « La tresse ». Qui a un
ah non, pas encore.
Il ouais. est vraiment super.
Colombani.
Exactement. Ouais. Et en fait, cette histoire-là, elle commence avant nous avec ce papier qui vient d'Inde, qui est fait artisanalement depuis 3 générations. Et la première feuille de papier m'a été offerte par ma sœur. C'était un livre relié qu'elle m'a offert il y a 4-5 ans, dont je ne savais que faire, des pages blanches, mais artisanales. Donc la première étape, c'est le papier. Donc le papier, il est chez moi. Je découpe ou je donne à Émilie cette feuille. Donc première traversée de la Saône et voilà. Papier, vas-y suite.
Voilà. Donc moi, je récupère le papier et il a fallu que j'apprivoise ce papier qui est très différent du mien. Donc je travaille sur papier. Donc j'applique mon produit photosensible puisque la cyanotypie c'est de la chimie naturelle. Donc je le sensibilise, je le rends sensible au soleil, je pose mes végétaux dessus, donc il y a aussi la partie cueillette aussi au préalable, donc soit des végétaux que j'ai dans mon herbier ou alors avec Auréliane on a aussi cueilli dans son jardin suspendu quelques petites plantes, donc je pose ensuite mes végétaux sur la feuille et je pars sur les cas de la Saône. Dans le noir, oui, à l'abri de la lumière pour la première étape. Ensuite je vais dehors au soleil sur les quais de la Saône. Et je prends le soleil en même temps que mes végétaux sur le papier. Donc j'attends que les UV agissent. Et ensuite je rentre pour l'étape du rinçage qui va venir révéler en fait l'empreinte blanche de la fleur sur le fond bleu. Le bleu va se révéler dans l'eau. Et c'est là toute la petite particularité, toute la petite difficulté du papier, ce papier artisanal-là, parce qu'il est très très complexe. Donc il y a plusieurs bains à effectuer. Et voilà, après je fais sécher. Et je rends les cyanotypes prêts, les empreintes des végétaux à Auréliane. Donc voilà, là, je retraverse la Saône et elle les a entre ses mains.
Nous sommes à la deuxième traversée. Hein.
Voilà.
Donc, on réceptionne ces pièces-là qui sont à chaque fois uniques. Donc, pareil, on va avoir un résultat. Le papier est d'une densité différente, variable. Donc, il n'absorbe pas pareil. On va avoir des bleus qui s'échelonnent vraiment. On est parti parfois sur des indigos, enfin vraiment couleur mer indienne. Et pour arriver sur des vrais bleus de Prusse qu'Amélie affectionne, qu'Emilie affectionne particulièrement, des bleus très, très sombres, des bleus nuit finalement. Et après, en fonction des pièces, donc au début, on a essayé un vaste choix de plantes. Je récupérais ces pièces-là et puis j'essayais parce que je ne savais pas finalement comment faire, comment travailler. On avait toute une discussion qui était très littéraire finalement sur cette façon d'aborder cette magie-là. Et puis finalement, on a décidé de prendre un parti pris sur certaines pièces, de travailler plutôt sur l'ombre et la lumière. Donc, je vais venir finalement rajouter de la lumière là où il y a de l'ombre habituellement, donc sous les plantes, pour donner un petit peu de profondeur. Ou alors, simplement, je vais restituer les nervures des plantes. Le soleil ne les fait pas forcément apparaître. Donc, on peut avoir des feuilles simplement blanches, des grosses feuilles blanches sur lesquelles je vais venir rhabiller, recréer des nervures et parfois même imaginer des plantes de notre jardin imaginaire à toutes les deux. C'était vraiment la volonté de partir de la nature et de la transcender avec toutes ces étapes d'eau, de vent, de soleil et de lune.
Très bien. Et donc, tu brodes directement sur le papier avec ce fil de lune.
Exactement. Et chaque trou...
Qui est un fil doré.
Qui est un fil doré argenté. Et pareil...
Doré argenté, oui.
Je te parlais de la tresse tout à l'heure. L'histoire est pareille. Ce fil-là, il a existé bien avant nous. C'est un cadeau d'une broc des puces qui me connaît bien et chez qui je chine souvent mes pièces. Cécile, qui, en voyant mon travail, m'avait dit, tu sais, j'ai une bobine de fil, ça peut t'intéresser, et qui m'avait donné ce bébé-là il y a bien avant que je rencontre Émilie, en fait. Mais un fil qui n'est pas un fil à broder, pour le coup, qui est un fil de coton, gainé de lurex, je pense des années 60, quelque chose comme ça. Et je ne savais vraiment pas quoi en faire. Et lorsque j'ai rencontré Émilie, j'ai dit, mais tu sais quoi, ce n'est pas un fil d'or qu'il nous faut. J'ai ce fil-là qui est mi-or, mi-argent. Appelons-le le fil de lune. Et la bobine est sortie et est intervenue à ce moment-là. Mais elle aussi, elle a son histoire. On ne sait pas d'où elle vient. Et une fois que la bobine sera terminée, l'aventure s'arrêtera, j'ai envie de te dire, et on passera à autre chose.
C'est terrible. Mais ça fait une espèce de couperet.
Ben, on fera autre chose, je sais, mais la bobine est grosse. On a de mettre de fil. Mais les histoires, tu vois, c'est la collection sur le fil, elle a ce nom-là aussi pour ça.
Ouais, d'accord.
Qu'on déroule et qui vient se présenter à nous parce qu'on n'est pas allé les chercher, les choses se sont calées, et c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, comme des évidences.
C'est beau, c'est très beau. Ouais. Et tu les brodes à la main, évidemment.
Oui.
Ouais, ouais. D'accord. Et alors après, vous jouez beaucoup sur la mise en scène, l'encadrement qui est superbe. Donc, je vous invite évidemment à aller regarder directement sur Instagram. Le compte, c'est collection sur le fil. Alors, c'est collection underscore sur point le point fil. Mais si vous cherchez collection sur le fil, ça devrait, vous devriez pouvoir retrouver les cyanotypes encadrés et brodés avec ce fameux fil de lune. La bobine de fil, c'est celle qu'on voit sur certaines photos.
Alors, c'est celle que tu vas voir au tout début de l'histoire. Moi, il y a des bobines anciennes, je suis en train de repartir sur Instagram en même temps, il y a des bobines anciennes que je garde et qui apportent de la lumière justement sur ces photos. Celle-ci, d'accord, elle doit faire partie des premiers clichés, elle est presque dorée argentée, tu verras. Enfin, tu peux pas la louper, il y a des fils de soie en bobine, c'est pas celle-ci.
D'accord.
Ouais, c'est une belle bobine qui prend bien, bien la lumière, c'est un fil vraiment qui a toute son histoire et qui brille bien. Mais du coup, il reste encore un autre passage à travers la Saône, de l'autre
côté. C'est ça, j'allais y venir, cette histoire d'encadrement, puisque c'est elle qui réalise. Donc, je restitue à Émilie les cyanotypes brodés dans sa boîte aux lettres parfois.
C'est ça. Et là, je découvre des petits trésors, je découvre mes cyanotypes. Donc, moi, je les ai livrés complètement vierges, je les récupère brodés et comme Auréliane vraiment s'est raconté son histoire, donc soit elle vient rapporter la lumière sur les ombres, ou alors elle saupoudre de lumière comme de la neige qui tombe sur les plantes. Donc moi je découvre ça et c'est fabuleux, je redécouvre du coup les cyanotypes. Et là il reste l'étape de l'encadrement, donc tout est encadré à la main. On fait couper le verre aux mesures et puis j'encadre en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de poussière, de poils de chat. C'est horrible entre deux verres parce que ça, ouais, il faut vraiment que ce soit nickel. Donc, je passe beaucoup de temps à encadrer. Et voilà. Et ensuite, le produit est terminé. Et juste si on peut, puisqu'on parlait du fil ou du papier qui avait une histoire, on a aussi développé des produits sur des socles en bois. Et notamment pour, en tout cas, la toute première collection qu'on a sortie, les socles en bois aussi ont une histoire puisqu'ils sont faits par mon frère. Mais bien avant ça, c'est mon grand-père qui a abattu les chênes, mon oncle qui les a transformés en poutres dans sa menuiserie, mes parents qui ont eu ces poutres-là dans leur salon pendant 25 ans, et mon frère qui les a récupérés dans sa menuiserie à lui. Et sans savoir quoi en faire, et on en avait fait déjà quelques bougeoirs et des toupies pour les petits-enfants, mes neveux. Mais voilà, moi, je me suis dit, mais puisque Carrasco et Sur le fil, on raconte plein d'histoires, en fait, il faut utiliser ce bois-là qui a déjà beaucoup de sens pour en faire des socles. Et du coup, tout a un sens dans la collection Sur le fil.
Ouais, c'est génial. Il y a une dimension d'upcycling entre guillemets, avec ce terme un peu à la mode, mais qui est on réutilise des choses peut-être un peu oubliées, et ouais, c'est super. Mais je me souviens que tu m'avais raconté cette histoire quand on s'est rencontrés à Chambéry au marché de créateurs début décembre.
Ah oui,
2019. Et en fait, c'est comme ça. Alors, je sais plus si c'est comme ça que j'ai découvert ton travail ou si je l'avais déjà découvert avant. Mais bon, bref, peu importe. Mais c'est là où j'ai rencontré aussi l'encrerie Marine, qui est donc Marine et qui fait partie aussi de votre collectif Les Mains, parce que voilà, vous êtes aussi toutes les deux membres de ce collectif, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui, tout à fait.
Qui est un collectif lyonnais.
C'est Etsy Rhône-Alpes en fait qui a changé de nom.
Voilà, c'est le groupe Etsy. Alors Lyon-Rhône-Alpes ou c'est très lyonnais.
Hein, je crois.
C'est non, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes.
Ouais. D'accord. Ok. Je ne peux vraiment que vous inciter à aller regarder sur Instagram et sur vos sites respectifs votre production, vos créations, parce que c'est vraiment magnifique. Comment tu es venue à la cyanotypie, Émilie ?
Alors, je me suis toujours intéressée à la botanique. Et en fait, dans mes recherches de fleurs, en fait, simplement sur Internet, je suis rapidement tombée sur la cyanotypie, puisque le premier livre photo de l'histoire, c'est un herbier en cyanotype. Donc, quand on s'intéresse au monde de la botanique, on croise ces empreintes de fleurs bleues assez régulièrement. Et justement, ce bleu m'a interpellée. Et puis la technique, je ne comprenais pas comment c'était fait. Donc, voilà, je m'y suis intéressée, j'en ai pas fait tout de suite, en fait, parce que il y avait la notion de chimie qui me faisait un petit peu peur. Donc, j'ai laissé passer des années. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de m'y mettre pour de vrai. Je suis tombée vraiment amoureuse de cette technique, parce que la chimie, en fait, c'est de la chimie qui est non toxique, non polluante. Donc, ni pour l'homme, ni pour l'environnement. En tout cas, pas dans dans la quantité utilisée de ces produits-là. Du coup, ça m'a rassurée. Je me suis aperçue que c'était quand même assez facile et qu'il y avait la dimension magique du soleil. Donc, j'ai tout de suite pris goût et surtout, j'ai retrouvé ce que je cherchais des végétaux à utiliser. J'ai retrouvé dans un livre dans ma maison, chez mes parents, ma maison d'enfance, des végétaux que j'avais fait sécher quand j'étais toute petite. Enfin, petite ou moins petite, ou peut-être ma mère aussi a complété l'herbier ensuite. Mais je les ai retrouvés là, qui dormaient depuis peut-être 20 ans dans ces pages. Et j'ai eu l'impression de retrouver des trésors, et je me suis dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose, et il faut que je les fasse revivre, et les faire revivre par le soleil, par la technique de la cyanotypie, et je trouvais que c'était une jolie histoire. Donc ça a commencé comme ça, par la découverte de l'herbier, et je me suis mise en même temps, en fait, à la technique.
D'accord. Et les feuilles, les plantes que tu fais sécher, tu vas pouvoir les réutiliser combien de fois dans tout ce processus de cyanotypie ?
Alors, je peux vraiment les utiliser beaucoup, beaucoup de fois. Ça ne les abîme pas du tout, puisque je les pose sur mon papier lorsque le produit est sec. Et ensuite, d'accord, le soleil ne va pas... ça ne va pas les abîmer. C'est juste à force de les manipuler. En fait, c'est les mains à force de les sortir de leur boîte.
Ouais.
Ça peut les abîmer un petit peu, mais sinon, je les utilise. J'en ai depuis le début. La plupart, ce sont des feuilles que j'ai cueillies il y a 2 ans déjà et ça ne bouge pas.
D'accord. C'était quoi ta formation initiale ? Tu faisais quel métier avant de te lancer dans la cyanotypie ? Et est-ce que c'est ton activité principale aujourd'hui ?
Alors, donc je suis artisane textile en fait. Ma formation, j'ai commencé des études de lettres. J'ai fait que 2 ans, mais c'est important pour moi parce que ça a beaucoup influencé après tout mon univers artistique. Donc j'ai commencé par des études de littérature, de lettres modernes. Et après j'ai fait 5 ans d'école d'art en art appliqué. Mon spécialité textile et je me suis orientée dans mon choix de métier ensuite vraiment dans le textile appliqué à l'artisanat d'art. Donc je travaillais et je travaille encore. Je travaillais dans l'artisanat d'art à Paris et j'ai tout quitté pour venir à Lyon qui est vraiment ma ville de cœur et je suis toujours artisane textile freelance, donc on m'appelle seulement sur des gros projets. Donc c'est voilà, donc dans un atelier lyonnais. Carrasco, la cyanotypie est mon activité principale, mais j'ai du coup l'activité d'artisanat, en artisanat textile, et je suis aussi agent d'accueil à l'Opéra de Lyon. Ce qui me permet de travailler le soir pour me laisser mes journées ensoleillées pour la cyanotypie.
Ça marche. Alors, artisane textile, je vois pas bien à quoi ça correspond. Concrètement, tu fais quoi ?
En fait, j'apprends un nouveau métier à chaque fois que je change d'atelier, donc c'est vrai que c'est très vaste. Quand j'étais à Paris, je travaillais la dentelle siliconée, donc c'était très particulier, c'était une technique brevetée. Et à Lyon, je fais de la marqueterie de cordes. je travaille les cordes, voilà, sur des projets de décoration. Donc, mais j'apprends un nouveau métier à chaque fois que je change d'atelier.
Ouais, effectivement. D'accord. Ok. Et donc toutes ces activités, finalement, ça t'apporte aussi un certain équilibre, peut-être aussi financier dans tout ça. Pourquoi tu maintiens toutes ces activités aujourd'hui ?
Alors, l'opéra, je pensais que ça allait être mon petit boulot, mon seul petit boulot fixe en fait, puisque le reste c'est j'ai un statut d'artiste auteur,
ouais.
Donc voilà, pour les revenus, ça dépend des mois. Donc je me suis dit, si je prends un petit boulot salarié, ça va me tranquilliser un petit peu l'esprit. Et en fait, l'opéra c'est bien plus que ça, puisque de travailler seule en journée. L'opéra, en fait, je vois beaucoup de monde et je souris, j'accueille les gens. Et en fait, ça m'apporte un équilibre qui est bien plus que financier, en fait.
D'accord.
C'est simplement mon équilibre de voir du monde, d'être entourée le soir, de sourire et je me sens bien. Et voilà. Et en fait, l'artisanat textile, c'est vraiment ponctuel. Donc là, c'est un plus, mais ça me permet de rester aussi dans ce que j'aime, mes études aussi, ma formation initiale. Donc... j'ai trouvé mon équilibre parmi ces trois activités-là. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais Carrasco, enfin la scénotypie ou la collection sur le fil, j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Donc, c'est un peu...
Ouais, d'accord. Et puis, alors, c'est une activité qui est assez saisonnière, parce que là, tu viens de recommencer à pouvoir, justement... je ne sais pas quel est le bon terme, mais donc...
Produire à nouveau, oui.
Voilà, produire à nouveau, exposer tes végétaux sur les feuilles. Donc, tu as partagé ça il y a quelques jours. Alors, on est début mars. Il y a quelques jours sur Instagram avec des stories où tu montrais un petit peu tout ça. Tu montrais aussi le bain ensuite.
Oui.
Pour faire révéler les cyanotypes.
Oui, tout à fait.
Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, alors déjà, moi, un peu le côté coulisses.
Oui.
J'ai trouvé ça super. Donc là, c'est une activité saisonnière. Tu peux pas faire ça quand les UV sont pas assez élevés, c'est ça?
Oui, alors saisonnière, mais en fait, alors normalement, plutôt février. Là, c'est vrai que j'ai commencé tout début mars. Mais de mi-février, normalement, jusqu'à mi-novembre, je peux travailler dehors quand même. Donc c'est vraiment
d'accord,
la période, c'est quand même juste décembre-janvier où là, les UV sont pas assez forts. À Lyon, hein, je précise à Lyon parce que je serais dans le sud, ce serait sans doute différent, ou dans le nord de la France ou ailleurs, ce serait différent aussi. Donc à Lyon, les UV sont pas assez forts l'hiver. Après, forcément, je suis dépendante du temps, mais les UV passent aussi à travers les nuages, donc ça me laisse quand même pas mal de journées. C'est seulement s'il pleut, en fait, que je peux pas...
Oui, et puis tu es obligée, effectivement, de rester à côté, quoi. Tu peux pas...
je reste à côté parce que je n'ai pas de jardin et j'ai pas de balcon, donc comme je vais sur les quais de Saône et que je m'installe, forcément, je reste à côté. Mais du coup, je reste... donc c'est pour ça que je préfère sortir quand même quand il fait beau, puisque moi aussi, je patiente dehors. Et les temps d'exposition vont varier par contre en fonction de la saison, de l'heure de la journée et du temps. S'il y a des nuages ou pas, ça va pas être le même temps. Voilà.
D'accord. Et donc tout ça, j'imagine que tu l'apprivoises au fur et à mesure.
Oui, à force d'en faire, j'en ai fait beaucoup.
Tu sais combien t'en as fait ?
Non, je sais pas. Vraiment, pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. À chaque fois que j'avais l'opportunité de sortir, j'allais dehors, quoi. Donc, j'en ai fait vraiment énormément.
D'accord.
Mais c'est comme ça qu'on apprend la technique, qu'on l'apprivoise.
Bien sûr.
Oui, je commence à bien maîtriser les temps d'exposition, mais c'est juste à force d'expérience.
Ouais, d'accord. Ok. Génial. c'est génial. Et toi, Auréliane, c'est quoi ta formation initiale? Tu nous parlais de ton métier de tapissière, c'était une formation de tapissière et de couturière?
Donc oui, j'ai une formation de tapissière que j'ai faite sur le tard, mais à la base, je suis aussi dans les lettres. J'ai fait LLCE, donc en littérature et civilisation étrangère, anglais, dans le sud de la France pendant 2 ans. Et puis en fait, j'ai vogué... je suis arrivée sur Lyon et puis j'ai commencé à bosser parce que j'avais pris cette décision de m'assumer et j'en avais assez finalement d'avoir des obligations d'étudiante. J'avais besoin de m'émanciper, de me trouver, donc j'ai bossé un petit peu dans tout. Enfin, je suis un vrai couteau suisse, donc de l'immobilier, du prêt-à-porter. J'ai fait une formation de tapissière parce que, encore une fois, ça a toujours été latent. J'ai été élevée par ma grand-mère en partie, qui était couturière et qui m'avait initiée aux travaux d'aiguille, au tricot, à la broderie, à la couture. Et donc, oui, une formation de tapissière que j'ai faite il y a 5 ans maintenant. Et puis, en fait... Pour des raisons familiales, mon homme était loin, j'étais sur Lyon, et puis on a commencé à faire de la location saisonnière. Donc, on a des appartements d'hôtes sur Lyon que je gère depuis 5 ans maintenant. Donc, moi, mon travail, c'est de faire tomber amoureux les touristes qui viennent sur Lyon de la ville. Donc, la presqu'ilienne connaît la presqu'île comme sa poche. Je déguste, j'innove, je suis les nouvelles boutiques, etc. Et le but du jeu, c'est vraiment de donner mes petits tips aux gens qui viennent de loin pour visiter la ville. Donc, je les emmène trabouler, je leur fais goûter les spécialités lyonnaises un peu cachées, les macalions, ce genre de choses. Et donc, je me nourris aussi de ça. Et ce que disait Olivier, très juste, hein, par rapport à son boulot à l'opéra, mais rencontrer des gens dans une relation qui est finalement hyper plaisante de service, de conseil, ça nourrit. Ça nourrit. Donc, voilà, la presqu'ilienne, c'est pas que de la broderie, c'est aussi cette façon de vivre ancrée dans la ville et puis de partager, et puis d'ouvrir les portes et d'être finalement dans. Ouais, je suis une ambassadrice lyonnaise. J'ai cette sensation-là, finalement, depuis 5 ans en accueillant les touristes du monde entier.
Ok. Et là, l'activité de tourisme. Ah bon, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler là, mais du coup, alors c'est peut-être juste en off. Tu ressens l'impact du coronavirus sur ton activité touristique?
Ouais, j'ai eu, alors pas des masses quand même, puisque j'ai eu une annulation, mais c'est vrai que les réservations qui se font aujourd'hui sont plutôt françaises. J'ai beaucoup moins de touristes étrangers. C'est plus du local, du parisien, des gens du sud qui viennent passer quelques jours. Ouais, non, non, là, il y a
À
un
Paris,
vrai
à
problème.
Lyon, ouais. Bon, je referme la parenthèse. Ça nous obsède un peu tous, cette histoire de coronavirus, finalement. Même si on sent, nous, enfin, moi, je suis à Grenoble,
Ouais.
je me sens pas trop concernée, mais bon, bref. Ok. Et quand vous étiez jeune, donc vous avez toujours plus ou moins créé, vous étiez déjà dans cet état d'esprit de créer avec vos mains.
Les mots, je crois qu'on a ce point commun aussi avec Émilie. Hein. Je crois que toi, tu l'avais très bien dit. Je ne sais plus comment tu me l'avais formulé la dernière fois, mais les mots sont importants. La narration est importante. La transmission, les histoires qu'on se raconte de mère en fille, toute cette histoire de transmission finalement. Et écrire, on a toutes les deux écrit beaucoup, je crois, Émilie. Je ne
Oui,
m'avance guère
c'est ça.
en
Non,
les
mais
disant.
c'est vrai, ouais. Les mots nous lient toutes les deux, ça c'est sûr. Et oui, la création, moi j'ai toujours dessiné. Je voulais faire, mon rêve ultime, c'était de faire une école d'art de toute façon. Donc c'était mes études d'art, je voulais faire ça. Et voilà. Mais oui, la littérature nous lie beaucoup. Et ce que je disais, j'en parlais avec Auréliane la dernière fois, c'est que là j'ai eu besoin de revenir un peu à la source de toutes mes inspirations, et je pense que on m'associe beaucoup au monde de la nature, c'est sûr que ça m'inspire beaucoup, mais je crois que je viens des mots avant de venir de la nature. C'est la littérature au départ. C'est ça.
D'accord. Ok, génial. Dans cette aventure entrepreneuriale, comment vos proches ont-ils réagi? Est-ce qu'ils vous soutiennent?
Alors,
Émilie?
oui, ils me soutiennent, bien sûr. Ça a pas été une décision facile. Enfin, pour moi, ça a été très très simple de quitter Paris et ma vie très stable parisienne pour. Enfin, j'ai tout bousculé pour venir à Lyon et créer ce projet-là. Donc pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours eu confiance en fait. Et je pense qu'on m'a fait confiance aussi. C'est vrai que ça a peut-être. Ils se sont peut-être demandé pourquoi j'avais décidé de tout quitter alors que tout allait bien. Mais je pense J'ai quand même les pieds sur terre, la tête très très sur la lune, hein, mais les pieds sur terre aussi. Je pense qu'on m'a fait confiance. Je me suis sentie soutenue en tout cas.
Génial, c'est hyper important. Et toi, Auréliane?
Ah ben moi, ça a été tellement latent, si tu veux. Enfin, je brodais. Comme, je sais pas comment te dire. C'est une catharsis de plein de choses finalement. Ces travaux d'aiguille et dans la littérature, on retrouve souvent. Ce côté magique de glisser tes pensées dans ton fil. Et finalement, ce que tu brodes, c'est ce que tu penses. Et tu couches sur le papier, dans l'écriture ou dans la broderie sur papier, comme je le fais, ce qui t'habite. Donc, avant de rencontrer Émilie, je brodais sur du blanc. broder sur du bleu m'a apaisée à un point que je n'aurais pas imaginé. Le bleu n'existait pas dans ma vie avant Émilie. Hein. C'est pas une couleur qui m'a attirée. Donc finalement, ouais, je pense que pour mon entourage, moi qui suis une vraie pile électrique, la broderie et le fait de pouvoir canaliser mes pensées, mes émotions en les couchant sur papier, que ce soit avec un stylo ou avec un fil doré, il y avait que du plus en qualité de vie. Voilà, l'histoire, la question ne se posait même pas finalement. Donc ouais, tout le monde a toujours participer à ce projet, les amis, la famille, les enfants, depuis qu'ils sont tout petits, nous voir, parce qu'on rénove aussi depuis 20 ans maintenant, des appartements. Donc les enfants nous ont toujours vus être très manuels et ont toujours imaginé qu'on pouvait tout fabriquer, parce qu'effectivement, on touchait à tout. Donc ça fait juste partie d'une des cordes de plus à mon arc, si tu veux. Je me souviens, Oscar, à quelqu'un qui disait « Maman, tu peux me fabriquer une télé ?» Ça va être compliqué, mais rien n'est impossible, si tu veux. On a tellement touché à tout que voilà, c'est presque un non-événement lorsque la presqu'ilienne est devenue cette marque de broderie, de fil doré, parce que ça faisait tellement partie de ma vie qu'il n'y avait pas de...
Ouais, je comprends. Quoi. D'accord. Et tu as le sentiment d'avoir transmis ça à tes deux garçons ?
J'en ai un qui est très introverti, très littéraire et qui écrit beaucoup. Donc je me dis que peut-être.
Oui, ça vient de toi aussi, ouais.
C'est ça, la graine est posée. Et puis effectivement, depuis qu'ils sont petits, tu vois, à 4 ans, je leur avais appris à tricoter. Ils ont fait du montage. Donc non, c'est des petits garçons qui, mine de rien, ont toujours coexisté avec ce truc-là. Donc fille ou garçon, on s'en fout. Ils ont touché aussi du doigt. Et Arsène, mon plus grand, me dit « Maman, mais moi, je peux pas t'aider et en faire un ou deux comme ça pour moi que je vendrais, ça me ferait mon argent en poche. » Donc, ouais, j'espère. Il n'y a rien de définitif. Tant qu'ils ne sont pas partis de la maison, jusque-là, tout va bien. On verra ce qu'ils font finalement de cet environnement dans lequel ils ont grandi. Mais ils en parlent très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, le week-end, on n'est pas souvent disponible parce qu'on travaille, parce que maman brode. Et ouais. C'est un modèle familial comme un autre, j'ai envie de te dire. On verra ce qu'ils en font. Je suis dans les comptes pour l'instant.
Ouais. Et tôt ou tard, en fait, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de créatrices que j'interviewe dans le podcast qui ont mis de côté pendant finalement leur adolescence parfois ou leur premières années de vie d'adulte, où elles ont mis entre parenthèses toute cette partie création, et puis c'est ressorti plus tard, à 30, 35 ans.
Après la naissance des premiers enfants, où finalement tu te recentres peut-être aussi sur toi et sur tes besoins et... Ouais.
Oui, pendant les grossesses aussi, effectivement, c'est un moment un peu hors du temps où ça arrive assez peu de temps finalement d'avoir autant de temps, entre guillemets, pour soi. Donc oui, c'est vrai que c'est un moment assez propice généralement à découvrir un peu la création, les loisirs créatifs. Donc moi, je trouve ça génial, quoi. Et Enfin, je trouve que c'est génial d'avoir une passion parce que ça permet de s'évader aussi du quotidien et de ralentir un peu le rythme. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de travail et je ressens le besoin de me poser avec justement un peu de couture, un peu de dessin, un peu de peinture pour essayer de calmer le jeu, quoi.
C'est ça. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et effectivement, ces travaux d'aiguille, finalement. Te recentre. Enfin, il y a un côté d'ancrage que tu as parce que tu es dans l'instant présent finalement, parce que tu es dans une forme de concentration.
Oui, c'est ça.
Donc, tu vois, moi, être dans le moment présent, je ne sais pas faire réellement. Je ne comprends pas ces gens qui me disent non, mais savoure l'instant du moment et tout. Ah, incapable. Par contre, finalement, ouais, la broderie, ce genre d'activité où, comme Émilie, surveille les UV et regarde comment ça tourne, tu peux pas être autre chose. Enfin, tu peux pas être dans d'autres projections, dans d'autres préoccupations. Donc rien que pour ça, c'est thérapeutique, hein.
Exactement. Ouais.
C'est un côté thérapeutique.
Ouais, complètement. Toi, ça te fait pareil, Émilie ?
Ah oui, complètement. Et moi, c'était, travailler la cyanotypie, c'est une vraie connexion aussi avec la nature et du coup à soi aussi. Donc c'est vrai que je suis obligée d'être pleinement à ce que je fais tout le temps. Donc mais ça a toujours été. Hein, je suis de nature assez solitaire où j'ai besoin d'être. Enfin j'ai toujours fait beaucoup d'activités manuelles, artistiques, créatives en tout cas. Et c'est vrai que c'est un moment où on est avec soi, et moi j'ai besoin de ça de toute façon.
Ouais. T'as raison, ouais, on est avec soi quand on crée, ah, c'est beau, hein, j'aime beaucoup. Et Carrasco, ton nom, ça vient d'où?
Alors Carrasco, ça vient d'un livre justement, c'est mon roman préféré que j'ai lu je ne sais combien de fois, qui s'appelle Le cœur cousu de Carole Martinez. Et en fait, Carrasco, c'est le nom de famille d'une lignée de femmes qui se transmettent des dons un peu merveilleux. C'est un, justement, c'est un livre qui est sur le fil, qui bascule entre la réalité, enfin, et qui va basculer dans le merveilleux sans y prendre garde. Et c'est un livre vraiment magnifique sur la transmission, et qui est assez magique. Et en fait, c'est ce qui a inspiré vraiment tout mon univers créatif. Voilà. Donc, je ne pouvais pas appeler ce projet-là autrement que Carrasco. Carrasco, ça porte tout un monde. Et ça vient de là.
D'accord, c'est beau. C'est très beau ce que tu dis. Vous avez, enfin, vraiment, c'est très cucu ce que je vais dire, mais vous parlez super bien. C'est hyper agréable de vous écouter.
Mais on s'est bien trouvé. Enfin, il y a une forme vraiment d'évidence avec Auréliane, c'est que vraiment, on s'écrit tous les jours, et quand on s'échange, mais c'est des poèmes, quoi. C'est vrai que c'est super joli, et on puise notre force et notre énergie dans ces échanges-là qui sont toujours pleins de poésie et sans vraiment le vouloir, mais c'est vrai que on trouve de la, je crois qu'on voit de la poésie partout en fait, et c'est super beau de voir quelqu'un qui la voit aussi comme ça.
Ben oui, et puis alors dans le monde qui nous entoure, j'ai envie de dire,
C'est ça.
Ça me laisse sans voix, quoi. Parce que c'est juste. Et encore aujourd'hui, tu vois, il fait beau à Grenoble. Je sais pas comment c'est à Lyon, mais pareil, ouais. On a souvent le même temps. Comment dire? Tu vois, ça, c'est dans ce comment dire, ce contexte un peu assez noir, et puis bon, enfin, en plus, je pense que je suis un petit peu stressée avec le boulot, mais du coup, ça fait, oui, voilà, c'est vraiment une parenthèse poétique qui est très sympa. Donc c'est
une bulle, mais effectivement,
ouais.
On s'est promis avec Émilie de préserver ce truc-là et de le partager, et c'est comme ça qu'on, en lançant ce vernissage qu'on a fait au mois de novembre dernier, on s'est mis finalement, on a mesuré la sensibilité des gens qui étaient montés avec nous dans cette aventure. On a donc reçu chez Nobadé, donc le lieu qu'on avait loué pour l'événement et pour le lancement, on avait invité le vendredi soir une sélection de créateurs, de boutiques et autres à venir nous rencontrer. Et le samedi, on était en pop-up store. Et on avait des gens qui attendaient le projet, qui connaissaient l'univers de Carrasco, parfois qui connaissaient le mien, parfois qui connaissaient les deux. Et lorsqu'on leur a parlé de collaboration, ils se sont sentis emportés, si tu veux, avec nous. Et en les rencontrant, parce qu'on ne les rencontre pas sur Instagram, on échange et,
bah oui,
et ça reste assez bon. Et lorsqu'ils nous ont rencontrés sur cet événement-là, on a mesuré la portée du travail qu'on avait fait à travers nos mots, à travers l'ambiance qu'on avait créée, à travers cette collection-là, puisqu'on avait des gens qui, finalement, nous parlaient de poésie. Et ce n'est pas quelque chose, comme tu le disais, hein, dans le monde dans lequel on est, ce n'est pas quelque chose que tu dévoiles. Et on a eu tellement de témoignages lors de cette soirée, lors de ce samedi, de gens qui nous racontaient la poésie qu'ils découvraient dans nos pièces. C'est-à-dire que Émilie et moi, on avait créé quelque chose qui nous parlait à nous. Mais de savoir et de se rendre compte que ça avait touché la sensibilité et l'âme des gens, et que ces gens-là s'étaient appropriés, ils nous ressortaient des émotions que ça véhiculait chez eux. J'en ai la chair de poule quand je t'en parle, parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Émilie, nous on veut que ça en fait. Je crois que l'art en lui-même, c'est de réussir à faire ressentir des choses aux gens. Et nous, ce qu'on a créé, cette collaboration-là, c'est quelque chose qui est concret. Je ne sais pas comment te dire, il y a une bulle.
Ouais, non, mais je comprends complètement.
Donc oui, on a hâte de recommencer ces rencontres, et on sait qu'on a des gens qui nous suivent et qui ont hâte eux aussi de retrouver des pièces et des univers et de pouvoir échanger. Et ouais, la poésie est partout, il faut juste que les gens acceptent de la dévoiler un petit peu, mais nous on veut que ces gens-là en fait, on passe un appel.
Oui, non, mais on a beaucoup parlé et c'est vrai qu'on avait été tellement touchés par tous les retours qu'on a eus et on s'est dit, c'est ça, c'est la poésie humaine aussi. Et finalement, bah, c'est notre fil, enfin le fil évidemment est un mot qui revient souvent entre nous, mais c'est notre fil rouge, c'est notre fil de lune, c'est notre fil, c'est ça, c'est la poésie humaine et la sensibilité des gens en accord avec la nôtre, en résonance.
Ouais, c'est super. Vraiment, c'est... Vous voyez, vous m'avez laissé sans voix.
Mais ce sont des histoires. Effectivement, il faut avoir l'occasion de les raconter. Et quelque part, seulement la collection, elle touchera ou elle ne touchera pas. Mais c'est toutes ces histoires. Et c'est pour ça que je t'incite vraiment à lire ce livre, La Grâce. Mmh. Moi, je trouve qu'il a ce truc-là de tu ne sais pas d'où ça vient, mais tout se pose et tout est évidence. Et à de nombreuses étapes avec Emily, on avait besoin de quelque chose. Tu vois, l'histoire des socles d'en bois. On avait commencé à créer le design de ces pièces-là sans trop savoir ce qui allait se passer, comment on allait pouvoir les réaliser. C'était un projet, c'était vraiment les prémices du projet. Et Emily me dit juste un jour, « Mais tu sais que mon frère était béniste ?» J'ai dit, « Ouais, d'accord. » Et elle m'envoie un message que j'ai trouvé énorme parce qu'elle me dit, « Est-ce que ça t'ennuierait si on utilisait les poutres familiales qui ont été les arbres abattus par mon grand-père, transformés par mon oncle ?» J'ai dit, qu'est-ce que tu me poses cette question? Comment est-ce que tu peux imaginer une seconde que je ne saute pas à pieds joints dans ce truc-là? Évidemment, c'est plein de sens. La vie pourvoit systématiquement aux choses dont on a besoin, et même dans les collaborations qu'on est en train de développer là avec Émilie, parce qu'il y a des projets secrets qui arrivent encore. À chaque fois qu'on a une problématique, on en discute, on évoque la solution et elle apparaît.
Ouais. C'est très simple hein, de travailler avec Auréliane. Ça se fait tout simplement. On est d'accord sur tout.
C'est chouette.
Je pense qu'Émilie est quand même d'un tempérament tellement optimiste et tellement bienveillant que finalement... ouais, non, c'est, enfin, elle est hyper apaisante. C'est, voilà, je... Ça aide.
Ouais.
Chacun son univers, il n'y en a pas un qui empiète sur l'autre. Tout est complémentaire, même dans nos textes qu'on peut écrire à quatre mains parfois sous nos posts Insta. Je donne l'idée, elle trouve les mots, on remodifie. Enfin, rien n'est laissé au hasard, si tu veux. Et ouais. Chacune a la place d'exprimer sans contrainte. Il n'y a pas de discussion à avoir. Enfin, ouais, effectivement, c'est à nos évidences, Amy.
Exactement, à nos évidences. Mais je voudrais juste aussi, parce que ça a été flagrant, donc... Juste parler de la manière dont on travaille, parce qu'on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même vie. Auréliane a deux enfants, moi non, j'ai un chat. Mais dans nos manières de créer et nos rythmes, on est complètement complémentaires. Mais au-delà de ça, c'est que dans notre projet, on parle du soleil et de la lune. Et en fait, on est du soleil et de la lune. Moi, si je travaille avec le soleil, je suis quand même quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Je suis très inspirée la nuit, donc je suis un peu aussi de la lune. Et en fait, moi, je me couche très tard. Et Auréliane s'élève très tôt et on s'est aperçu quand on était vraiment en phase de création et production qu'on était, on pouvait couvrir une plage horaire peut-être de 20 heures par jour sur le fil parce que je me couchais tard mais du coup j'envoyais des mails pour dire où j'en étais à Auréliane et elle prenait le relais tôt le matin quand moi je dormais encore et en fait il y a eu tout un cycle entre le soleil et la lune justement et qui tournait très bien. On s'est dit, mince, même dans notre manière de créer, il y a de la poésie aussi, parce qu'il y a cette espèce de cycle du jour et de la nuit.
C'est ça, ce relais.
Ouais,
on passe le relais. Elle postait à 2h du matin là où elle en était, où est-ce qu'il fallait avancer, les interrogations, les problèmes à résoudre. Et moi, je me levais à 6h, je récupérais son message et je traitais le truc. Donc effectivement, si tu veux, il y avait 20 heures de travail effectivement. Il y avait 4 heures où grosso modo, on dormait toutes les deux. Mais moi, quand je m'éveillais, j'avais des pistes pour avancer. Et elle, quand elle se levait, les solutions étaient en partie apportées et les textes ouais. avaient avancé également. Donc, oui, non, il y a une sorte de cycle.
C'est la magie, voilà, du jour et de la nuit.
Ouais, c'est génial. Et alors, vous avez participé toutes les deux, dans le cadre du collectif Les Mains, à un pop-up store qui s'est tenu début février, enfin, de la première quinzaine de février, avec l'événement Les Mains Baladeuses. Alors, non, d'ailleurs, je dis des bêtises parce que je crois qu'il n'y a qu'Auréliane avec la presqu'Ilienne qui a participé.
C'est ça. Oui, en fait, je devais participer, mais comme il y avait un thème couleur.
Oui.
Une gamme de couleurs un petit peu imposée, bah, couleur peau, etc. J'étais tellement emballée par ce projet que j'ai dit oui avant de me rendre compte que de perdre le bleu me faisait perdre l'identité Carrasco. Donc finalement, je me suis retirée du projet
C'est vrai, ouais, l'avais expliqué. Ouais. Ah ouais. Et alors, Auréliane, quel accueil ont reçu tes créations un petit peu plus osées que d'habitude? Donc, on va les retrouver sur Instagram, hein, si on remonte un peu le feed. C'était des petits mots un petit peu plus osés, c'est ça? Un peu grivois.
En gardant, si tu veux, la possibilité, je pouvais exprimer des choses un petit peu trash, entre guillemets, dans le sens où broderie
c'était joli.
Papier, visuellement, tu n'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de trash derrière. Donc,
exactement.
Globalement, voilà.
Voilà, on rappelle, mais du coup, on en a parlé dans l'épisode de l'encrerie marine que je vais diffuser d'ailleurs aujourd'hui. L'idée, c'était d'avoir des créations vraiment sur le thème plutôt de l'érotisme, mm-hmm. du sexe, de l'amour, etc. Donc, des choses qui peuvent sortir un peu du cadre, ouais. mais voilà, qui visiblement ont été appréciés par les Lyonnais et j'imagine les autres qui sont venus à votre rencontre à ce moment-là.
Bah, les mains, ils sont très très forts en termes de mise en scène, la scénographie était géniale. Effectivement, on avait ce coloris imposé des teintes chair. Moi, j'avais depuis un an en fait, depuis les jolis jours, j'avais rencontré Oulala Sandrina qui fait de la teinture végétale également, et je lui avais dit non mais attends, je voudrais teindre mon papier. T'imagines si j'arrivais à teindre mon papier? Et quand Myrti m'a contactée pour les mains baladeuses, qu'elle m'a parlé de ce projet en me disant par contre, on part sur des teintes chair. Je me suis dit, ah, oh, teinture à mica, nude, ok. Je te donne une réponse, je fais mes tests et on y va. Et effectivement, j'ai teint mon papier avec le pigment naturel de la peau et du noyau d'avocat pour décliner finalement toutes les teintes chères qu'on peut avoir. Et on avait un résultat qui était tellement homogène sur ce lieu-là que tout était beau parce que tout fonctionnait bien, si tu veux. Il n'y avait pas de faute de goût, on avait une harmonie, un cercle chromatique parfait sur les teintes de chair. Et globalement... tout dans la suggestion aussi. J'avais juste l'impression, moi, toujours avec ma collection au fil d'or, de faire presque un stand de mariage, tu sais, au milieu de ce truc qui pouvait être parfois un peu osé, parce qu'on avait quand même des vagins dessinés, superposés, en fait, taillés sur papier. C'était vraiment superbe. Mais du coup, moi, au milieu, j'avais l'air très... très mièvre. Je ne me rendais pas compte que oui, je pouvais aussi exprimer un peu d'érotisme et machin, mais non, moi, je fais juste salon du mariage. Tu vois, j'ai mon fil, mes coloris nude, mon fil doré. Et finalement, les pièces qui ont le mieux marché n'étaient pas les pièces les plus osées. Donc, la cliente n'a pas forcément, l'érotisme, c'était bien. Et vraiment, je me suis amusée à faire cette collection capsule-là. Mais je suis pas sûre que tout le monde s'y soit retrouvé, tu vois, au niveau des gens qui suivent mon travail pour ces ex-voto. Et là, j'ai eu l'impression de faire un pas de côté. J'avais un petit peu peur, ça s'est très bien passé au final. Mais c'était, ouais, c'était une chouette aventure en tout cas. Puis elles sont très très fortes, ces filles-là. Les mains et Myrti, enfin, l'organisation était géniale. Marine, pareil, enfin. C'était une chouette aventure, en tout cas.
Bon, bah c'est génial. Et puis, de vivre tout ça ensemble. Alors, vous avez déjà votre aventure à toutes les deux. Donc, déjà, c'est très différent des créatrices qui sont seules. Là, de se retrouver dans un collectif, alors, il y a une énergie de groupe qui est encore différente que quand on est à deux. Mais là, ce qui est génial aussi, c'est d'avoir les retours en direct des clients, des passants, des touristes.
Ouais, l'inauguration, parce qu'en fait, il y avait une permanence. Donc, on n'était pas systématiquement présents.
Pour tout ensemble. D'accord.
Exactement. Mais le vendredi soir, donc, on a fait le lancement du pop-up. Et en fait, moi, je tournais. Il y avait tellement de gens qui tournaient autour de la pièce. Moi, je tournais avec eux pour éviter de rester devant chez moi. Tu sais, la timidité de se confronter finalement au regard des gens. On a eu énormément de monde. Effectivement, ça a très, très bien fonctionné. La soirée de lancement était juste incroyable.
Bon, ça doit booster à fond, quoi, des moments comme ça.
Mais oui, c'est clair que ça booste maintenant. Et il y a toujours ce... Je ne sais pas si on est toutes très à l'aise avec le regard des gens, tu sais. Toujours cette crainte d'être jugée ou d'être illégitime dans ce qu'on fait. Et effectivement, autant la collection sur le fil avec Émilie, c'est quelque chose... on est toutes les deux pour s'installer dans cet univers-là. Je ne sais pas comment te dire. Les fondations, du coup, les racines sont beaucoup plus profondes quand on est deux à croire ce projet-là que quand on est seul.
Bien sûr.
Donc ouais, mais effectivement, les rencontres avec des gens qui admirent ton travail et puis qui te le disent,
c'est magnifique.
Mettre mal à l'aise aussi, hein, tu sais.
Ouais.
Peuvent te gêner et
ces moments-là sont magnifiques parce que c'est vrai qu'on travaille en solitaire, sinon on travaille de chez nous. On sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on veut véhiculer, mais est-ce que ce sera reçu? Je crois qu'on n'y pense même pas. Enfin, nous, pour la collection sur le fil, on s'est fait plaisir, mais sans jamais se demander ce que ça allait devenir après. Et en fait, on s'est pris justement le retour des gens et ça nous a dépassé. En fait, on s'attendait pas à tout ça parce que c'est vrai que nous, il y avait cette forme d'évidence-là où, de toute façon, le projet, il était là, il est né, il existait, mais c'est vrai qu'on avait oublié qu'on allait le montrer un jour. Et on a eu le retour des gens, les échanges, et c'est ça, oui, c'était magnifique, des sensibilités folles. Et c'est vrai que c'est super important parce que nous, on était un petit peu aussi enfermés dans notre monde, mais on y était bien, on y est toujours bien. Mais c'est vrai que de partager tout ça et de voir ce que les autres voient dans nos créations, ils se racontent des histoires aussi, et parfois c'est leurs histoires, et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, chacun y voit un peu ce qu'ils veulent, et d'avoir ces échanges, c'est fort, quoi, c'est super important.
Ouais, c'est super. Et alors, dans l'aventure entrepreneuriale, donc vous avez chacune votre propre statut, j'imagine, peut-être d'auto-entreprise, enfin de micro-entreprise.
Oui. Alors, moi je suis artiste-auteur, mais c'est la même.
Ah, artiste-auteur. Ouais. Est-ce que si on parle très concrètement, par exemple, de logistique, vu que vous vendez en ligne vos créations, donc logistique, j'entends les expéditions, la préparation des commandes, etc., mais aussi le côté communication, est-ce que tout ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, qui vous passionnent autant que la création ou peut-être moins?
Ouais, moi, ça me plaît, en fait, de tout faire. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien justement cet équilibre-là. Alors évidemment, ce qui me plaît le plus, c'est la création, hein, ça c'est évident. Mais d'aller jusqu'au bout, et d'ailleurs avec Auréliane, quand on envoie les paquets de sur le fil, bah, c'était surtout en période de Noël, mais on a pris un tel soin à faire nos paquets. On mettait du lierre, des fleurs partout. On y trouve du plaisir à chaque étape. Et la communication, évidemment, ça prend énormément de temps. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, d'ailleurs. Mais ça fait partie du projet aussi. Et c'est en ça que d'écrire aussi nos petits textes, c'est de la communication, mais ça fait partie de l'univers aussi. Donc moi, j'aime bien tout faire. Je me dis que ça change. Il y a beaucoup d'étapes. Moi, ça m'amuse assez d'être partout comme ça.
Oui, la création, c'est pas simplement le produit, le produit artistique fini. C'est aussi l'univers qu'on peut transmettre aux gens, et l'univers pour qu'il soit le plus complet possible, ça va passer par nos textes, ça va passer par ces envois soignés où effectivement, je pense à certains paquets qu'on a fait à Noël où les gens ont dû ouvrir, il y avait du lierre partout, ils cherchaient leur cadre dans le lierre, tu vois, et j'aurais rêvé de recevoir des colis comme ça. Donc la magie de la collection sur le fil était acheminée jusqu'au chez les gens, ils avaient un échantillonnage. Tu vois, c'est pas simplement la pièce livrée. On avait un mot, on avait nos écritures, on avait ces végétaux et ça contribuait finalement à... C'est pas simplement un produit manufacturé.
Oui. C'est un vrai cadeau, quoi.
Oui, puis c'est chouette, en fait, même s'il y a des parties moins amusantes que d'autres, hein, toute la partie, par contre, facturation, tout ça, les chiffres, moi, ça m'amuse un peu moins. Mais bon, c'est tellement beau de porter un projet, son propre projet... créatif, artistique comme ça, que ça fait partie du jeu, et c'est plutôt chouette de se dire que ben du coup on gère tout et voilà, c'est notre bébé à nous.
Ouais. Et fixer le prix de vos créations, alors j'imagine déjà seul c'est peut-être un sujet ou pas d'ailleurs, vous me direz, et de vous mettre d'accord pour fixer le prix de vos créations communes, comment ça s'est passé?
Ce fut long.
Ouais. C'est pas évident de fixer les prix.
Bah, surtout qu'en plus, on a cette volonté avec Émilie de rendre accessibles nos pièces.
D'accord.
L'idée, c'est que chacun puisse repartir avec un peu de ce travail-là chez lui. Donc, on voulait quand même avoir un prix suffisamment attractif. Maintenant, la problématique, quand on travaille à quatre mains, Émilie, elle fait ses cyanotypes de son côté. Moi, je fais mes broderies de mon côté avec la presqu'ilienne. On a déjà ce temps de travail. Maintenant, quand tu cumules, parce que chaque pièce, elle est cyanotypée comme les produits d'Émilie, chaque pièce que je brode est brodée comme pour la presqu'ilienne, tu ne peux pas additionner purement et simplement le coût du temps de travail de chacune sur un seul produit. Si tu veux, tu ne peux pas doubler ton prix de vente. C'est hyper délicat. Donc, effectivement, c'est un peu les cheveux. Ouais. On a commencé par dévaloriser complètement notre travail au début. Je crois qu'on était parti au raté pâquerette.
Ah ouais, complètement. Ouais. C'est super dur de fixer les prix. Ouais.
Et puis, on a réussi finalement à trouver une cohérence dans nos formats, dans le temps de travail qu'on passait, parce que d'une pièce à l'autre, en broderie, finalement, alors le temps de rinçage est beaucoup plus long, hein, pour Émilie que sur ses cyanotypes habituels. Donc déjà, c'est plus long pour elle de cyanotyper sur mon papier. Moi, par rapport aux végétaux qu'Émilie va me soumettre, certains, c'est ultra long. J'ai des pièces qu'on a fait qui s'appellent les fabuleuses chez nous. Je crois que j'ai 8 heures de travail.
Ah ouais.
Donc, quand tu additionnes ces 8 heures de travail au temps de travail d'Émilie, tu peux pas faire un ratio au taux horaire. Tu vois, tu fais comment ? Enfin, ce serait pas juste, si tu veux. Donc on a développé, ce qui était chouette avec cette première collection, c'est que finalement, on s'est rendu compte que les pièces qui plaisaient n'étaient pas forcément les plus chargées, qu'on pouvait faire une gamme de cyanotypes beaucoup plus brodées, donc ces fameuses fabuleuses. On a sorti que 4 pièces comme celle-ci parce qu'elles étaient très longues. Certes, on les a pas vendues au prix, entre guillemets, rentable, mais quelle belle pièce et quelle je sais pas comment dire... On était juste contents que les gens regardent en disant « mais celle-là, elle m'appelle et j'y vais, quoi ».
Ouais, c'est des coups de cœur. Et c'est magnifique.
Mais effectivement, on a trouvé un compromis. Voilà, on a trouvé un compromis entre ces petites pièces et les très grosses où on peut se faire un peu plus plaisir. Et c'est vraiment du coup de cœur, même si finalement, on essaye d'être… Je ne sais pas comment dire. Tu sais, c'est entre ce mélange entre artisan et créateur. Par moment, quand tu vois que mon carreleur il prend 40 balles de l'heure, et je me dis que moi parfois sur certaines pièces je suis à 10 euros, tu te dis qu'il y a un souci à un moment donné, mais
ouais, je comprends, ouais, c'est clair.
On peut pas mettre le vrai prix.
C'est vraiment de pouvoir démocratiser les pièces sur le fil et pouvoir les faire franchir le seuil de n'importe quelle maison, quoi. Non, Émilie ?
Oui, complètement, complètement. Et c'est impossible de mettre le vrai prix. Enfin, c'est impossible. Non, c'est sûrement possible. Mais c'est vrai que nous, on voulait quand même que ça reste accessible. Moi, c'est un vrai questionnement dans mon projet du coup personnel Carrasco, parce que je peux pas imaginer ne pas pouvoir acheter mes propres œuvres, par exemple. Donc, j'ai jamais eu un fort pouvoir d'achat et je peux pas me dire je mets des prix. Beaucoup plus haut et me dire que même moi, si j'étais cliente, je pourrais pas m'acheter mes œuvres. Donc, je pars aussi. Alors, je sais, on m'a dit, faut pas trop penser comme ça, mais moi, je peux pas imaginer ne pas pouvoir être ma propre cliente, en fait. Donc, c'est vrai que c'est super difficile de fixer des prix. Il y a toujours, est-ce qu'on est trop cher? Est-ce qu'on n'est pas assez? Est-ce qu'on est légitime? C'est plein de questions.
Ouais, c'est... C'est sûr.
Mais à deux, c'est plus facile. Effectivement, d'avoir notre œil, si tu veux, sur cette collection, sur le fil, on avance chacune avec nos freins. Hein. De toute façon, c'est ce que disait Émilie. Elle, pour elle, elle n'imagine pas vendre quelque chose qu'elle ne pourrait pas s'acheter. Moi, de mon côté, pareil, j'ai d'autres freins. Et on arrive finalement, en discutant, à réussir à fixer un prix qui est juste.
Mais sans dévaloriser le travail, parce que c'est vrai que parfois c'est impossible de, enfin, il faut aussi qu'on essaye d'en vivre. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Faut pas qu'on se dévalorise. Donc c'était beaucoup de questionnements. Mais les prix ont pas mal changé. Enfin, au départ, avant de les fixer. Ouais.
Ouais. Mais c'est rigolo parce que à force donc de faire toutes ces interviews, il y a vraiment deux écoles. Mais je pense que donc les deux écoles, c'est soit c'est hyper facile et on se pose pas 15 000 questions, soit c'est plus compliqué. Et quand c'est plus facile, j'ai l'impression que c'est plus facile parce qu'en fait il y a une concurrence qui est établie parce que c'est des produits qui sont entre guillemets connus et que si je dis n'importe quoi, par exemple pour une trousse ou une pochette, on va regarder sur internet, on va regarder sur Etsy ou sur que sais-je. Et finalement, on se fait un peu notre prix par rapport à ça. Mais ce n'est pas forcément toujours le prix, effectivement, qui tient compte, qui serait un prix viable, rentable, qui prend compte, effectivement, la réalité du travail qu'il y a derrière. Et peut-être que la difficulté que vous avez eue sur votre travail, c'est peut-être aussi que c'est des pièces plus qui sont des pièces d'art, plus que des pièces, des produits... comment dire, on est dans la décoration, on n'est pas dans des produits qui sont utiles, pratiques, enfin j'ai envie de dire. Et donc fatalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est plus compliqué. Il y a peut-être moins de repères aussi.
Bah, la scénotypie, chaque pièce est unique. Alors il y a déjà ce truc-là finalement. Même avec
le
même
digital,
tu n'auras jamais deux fois le même résultat. La broderie vient rajouter une couche. Chaque pièce est unique, mais unique trois fois. Si tu cumules l'unicité de la pièce. Donc, ça reste des pièces. On a vendu des pièces coup de cœur. Émilie et moi, on avait chacune une pièce dans les fabuleuses qu'on aimait vraiment. Enfin, ça faisait partie de notre histoire. Je me souviens comment je les ai brodées. Émilie se souvient quand elle les a fait et qui ont été vendues. On n'a pas de repère de prix parce que personne ne fait ce qu'on fait.
Ah ouais, c'est ça.
Donc,
Et c'est un déchirement de vendre ces pièces coup de cœur.
Oh là là, Auréliane va se souvenir de mon regard quand j'ai senti que mon petit chouchou allait partir, parce qu'on s'était dit on les garde pour nous ceux-là, on va mettre des gommettes pour dire qu'ils sont réservés. C'était vraiment, on avait chacune une fabuleuse qu'on affectionnait particulièrement et on les a exposées. Et on voulait, mettre une petite gommette en disant non, on les garde. Puis on s'est dit, de toute façon, on les vendra sans doute pas. On savait pas quel retour on allait avoir. Et il y a eu un coup de cœur direct sur celui au départ que je préférais. Et Auréliane m'a regardée et je pense qu'elle a lu de mon regard ce déchirement. Mais c'était un tel coup de cœur pour la cliente que de toute façon, bien sûr qu'il allait partir. Bien sûr que j'allais le laisser partir. C'est sûr, il y en aura d'autres. C'est ce que je dis toujours. Et c'est pareil pour dans Carrasco, dans les végétaux que j'utilise ou les jolies trouvailles qu'il y a dans les cyanotypes, c'est que c'est toujours unique et c'est vrai que la nature offrira toujours des trésors. Donc il y en aura d'autres. Il y aura d'autres, il y aura d'autres chouchous.
Ok. Et est-ce que vous avez des outils préférés qui vous sauvent dans votre organisation? Quel qu'il soit, hein, dans votre organisation au sens large, soit de maman qui a beaucoup d'activités, ou comme toi, Émilie, effectivement, pareil, qui jongle un petit peu entre l'emploi du temps.
Des outils, non. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Moi, en fait, je m'organise en fonction du temps. Donc, je regarde, je planifie mes semaines en fonction de la météo. Et après, je sais tout ce que je vais avoir à faire comme étape. Donc, je m'organise dans ma tête, généralement. Et j'ai pas d'outils particuliers puisque je travaille avec des fleurs et le soleil.
Ok.
Puis moi non plus, en fait. Je crois que les outils que j'ai, c'est... On a ce goût des objets et de leurs histoires avec Émilie, mais tu vois, quand tu as posé la question, je l'ai mal interprété. Pour moi, c'était les objets fétiches, enfin, les choses importantes dans notre univers. Je sais qu'Émilie a ses casiers d'imprimerie familiale, qu'elle a une presse qui a été faite avec du bois par son papa, je crois.
Oui.
Et moi, je pensais plus à ces choses-là qui nous sauvent la vie, ouais. J'ai ces presses en bois lourdes, j'ai ces bobines de fils anciennes. Enfin, tu vois, je pensais plus à ça en termes d'organisation. Et à partir du moment où j'ai ces objets-là avec moi, roule ma poule.
Il peut rien t'arriver.
Non, je crois que c'est ça. Ce sont nos piliers, finalement, dans notre création. Et on a besoin de rien d'autre, hein, non?
Oui, c'est spontané, hein. Enfin, moi, je travaille à l'envi. Les fleurs, voilà, c'est mes outils. Je sais pas. Oui, non, il y a pas de. Bon, j'avais déjà fait un post comme ça sur Instagram où j'avais dit, moi, j'ai pas de to-do list. Ma to-do list, elle se compose de fleurs. Et je sais, je vais de côté les fleurs que j'ai envie de faire en cyanotype. Et du coup, bah, c'est ça ma to-do list. Aujourd'hui, je vais faire une marguerite.
J'ai envie quand même, parce que moi, ouais. J'ai des to-do list qui ne sont pas comme celle-là.
Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Hein, mais
Ouais. Et du coup, ça doit... Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce que c'est aussi une qualité de vie que vous vous êtes créée peut-être au détriment d'autres choses, je ne sais pas si... parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'on arrive à en vivre? Donc, est-ce que c'est aussi des choix que vous avez faits pour avoir justement cette qualité de vie que vous assumez, quoi?
Ben, ça dépend ce que tu mets dans le mot « avoir envie d'en... », enfin, d'essayer d'en vivre, en fait.
De vouloir en vivre,
tout à fait. C'est ça dépend ce que tu mets derrière. Moi, j'ai trouvé une liberté totale dans ce projet-là, parce que je m'organise comme je veux, parce que je m'organise en fonction de la météo, je vais cueillir... Enfin, la cueillette de fleurs fait partie de mon travail, donc je me dis que j'ai le plus beau métier du monde, je me suis créé le plus beau métier du monde. Donc, j'en vis complètement. J'ai d'autres activités, parce que faut quand même que je paye mon loyer et que je mange, mais Carrasco reste mon activité principale de toute façon. Je vis beaucoup plus simplement qu'avant, mais beaucoup mieux, je crois.
Ouais. Et toi, Auréliane ?
Moi, j'ai pas fait de choix. Je fais tout. Je fais tout. Donc, je suis hyper organisée. Chaque créneau horaire est complété, optimisé. Optimisation des transports, optimisation de l'organisation. Je suis cette femme qui se promène avec des sacs accrochés, son chariot derrière. Enfin, ouais, j'en fais beaucoup. Et je crois que la parenthèse de la collection sur le fil lors de la création de l'événement me fait vachement bien parce que justement, mon obligation, c'était de broder, de sortir le nombre de pièces qu'on avait envie de sortir. Mais sinon, non, aujourd'hui, mes journées sont ultra chargées. On est sur la rénovation d'appartements. J'ai deux enfants, j'ai la presse qui vient, j'ai le projet de la collection sur le fil qui prépare de nouveaux événements. Donc, moi, je suis juste sous l'eau tout le temps, en fait.
Et c'est ta façon de fonctionner, tu aimes ça, tu es à l'aise avec ça?
Je crois que j'ai ce tempérament-là d'hyperactive, tu sais. Donc même si je demande à me poser, peut-être que l'âge aussi, je suis un peu plus âgée qu'Emily, je fête mes 40 ans cette année, tu vois, je fais partie des vieilles créatrices, des vieilles jeunes créatrices.
On n'est pas vieilles à 40 ans.
Non, mais c'est vrai que quand je vois le collectif des mains et autres, effectivement, des fois, j'avais...
Oui, elles sont plus jeunes, ouais.
Donc voilà, mais je pense qu'avec l'âge, finalement, je me ressens sur le besoin de solitude, sur le besoin d'avoir du temps où je ne fais rien d'autre que de prendre le temps. C'est fait partie de mes projets depuis 3-4 ans, mais 2020, je sens que je tiens le bon bout et que je vais réussir à faire le tri et à ne garder que l'essentiel. En tout cas, l'essentiel, je sais ce qui me fait du bien aujourd'hui et la création et les collaborations et les rencontres de créateurs et la poésie me fait du bien. Et je pense que ça me suffit. Peut-être que je finirai ermite finalement avec mon fil doré, peut-être. Parce que je crois que la poésie te fragilise aussi vachement finalement dans le monde dans lequel on vit. Elle peut te renforcer si tu rencontres des gens qui, comme toi, partagent cet univers-là. Mais quand tu es toute seule avec ta poésie face à un monde gris, parfois, c'est un peu dur. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne me pose pas la question et je mène tout le monde. Et le but, c'est qu'effectivement, la presse kilienne puisse poser ses valises et ne plus travailler dans l'urgence et s'y redonner du sens à tout ça. Mais je crois qu'on est dans une génération qui a envie de mettre du sens dans les gestes, dans les choses, dans les objets, où on a envie de se raconter des histoires et de remettre du sacré. Et je crois que la presse kilienne, je crois que Carrasco, je crois que la collection sur le fil, c'est un peu ça. On est en train de remettre le sacré dans nos vies. Voilà.
Ouais. Je finirai bien là-dessus parce que c'est super beau, mais j'ai encore 2-3 questions. Et peut-être qu'Emilie, tu voulais compléter ce qu'a dit Auréliane.
Non, justement, je trouvais aussi qu'elle avait très bien ponctué.
Alors, quels sont vos prochains challenges créatifs à toutes les deux et donc alors ensemble? Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait une collection qui se préparait.
Oui, en fait, Emily, on voudrait.
Qu'est-ce qu'on raconte? On ouvre une parenthèse là.
On raconte pas tout. On raconte pas tout. Mais non.
Une précision, Emily, excuse-moi. L'enregistrement, je le diffuserai à mon avis pas avant un mois.
Non, mais même. Non, en fait, on souhaite, enfin, la collection sur le fil, c'était pas juste, on l'a présenté une fois, mais il y aura d'autres fois. En fait, on a vraiment l'envie, on peut pas tenir une production sur l'année parce que c'est très long.
Ouais.
C'est très très long, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, on n'est pas forcément très très rentable sur cette collection là. Nous, on se fait vraiment plaisir, donc on peut pas la garder toute l'année. Par contre, on voudrait faire 2 rendez-vous par an où vraiment on va créer notre collection avec des thèmes particuliers, avec des petites surprises. Là, j'en dirai pas plus, mais il y aura peut-être d'autres on va peut-être rencontrer d'autres personnes à ce moment-là. Et on voudrait vraiment inviter les gens à vivre un petit peu une petite expérience, à les emmener dans notre monde, en fait, dans notre univers. Et ça, deux fois par an, on s'était dit au solstice au départ. Donc, ce sera pas exactement au solstice d'été ou d'hiver, mais dans ces eaux-là. Mais ça arrive. On est là.
Ok, super. Et pour Carrasco, tu as des challenges créatifs particuliers.
Oulala, oui, ça va être une année très 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 dense. J'ai beaucoup d'expositions et d'événements Oui, parce que je fais partie d'un autre collectif aussi et il y aura pas mal d'expositions à Lyon et je suis ravie parce qu'en juin, je fais un événement qui se trouve dans mes champs natals, là d'où je viens, en Champagne-Ardenne, dans la Marne. Et du coup, je vais pouvoir exposer dans les jardins là-bas, là où sont mes racines. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, je vais rencontrer un autre public. Là, je vais à Dijon aussi.
Ouais, j'ai vu ça.
Et voilà, Carrasco sort un petit peu de Lyon et c'est chouette.
Super. Alors moi, je suis bourguignonne. J'ai fait une partie de mes études à Dijon. Alors, tu vois, ça me plaît bien de savoir qu'il se passe des choses à Dijon.
J'ai hâte de rencontrer les Dijonais.
Bon, normalement, ils sont sympas. Et toi, Auréliane?
Moi, j'ai pris la décision de rester petite. Moi, c'est mon leitmotiv en 2020. Je veux faire des pièces avec cœur, je veux pouvoir avoir le temps de créer parce que j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses qui m'ont été racontées par ma grand-mère, entre autres, plein de choses que j'ai envie de coucher sur le papier et autres, avec le film toujours, hein, mais donc prendre le temps de créer des pièces. Et puis finalement, je ne veux pas devenir une grosse entreprise, je ne veux pas faire le printemps des docks, je ne veux pas faire une production trop intensive. Pour que ça garde du sens, il faut que ce soit fait avec... parcimonie, minutie et cœur. Donc, j'ai dit que je sortirais des pièces juste quand j'aurai l'énergie, la bonne énergie, tu vois, pour la faire. Je veux pas avoir d'obligation par rapport à ces trucs-là qui doivent rester un peu merveilleux, prestueux. Donc, pas trop d'événements pour la presqu'île. Toujours des partenaires sur la presqu'île, chez Little Yamon, chez les Fées Canopées, le Bruit du Bonheur. Et puis des nouveautés, et puis des jolies collaborations, pareil, des jolies rencontres Insta, un projet avec une céramiste que j'adore, d'autres créateurs lyonnais, enfin voilà, je vais me laisser le temps cette année de créer des nouveautés, des collections capsules avec des créatrices dont j'admire le travail, qui vont me permettre de grandir et puis d'orienter ma création artistique dans d'autres directions. Donc plus de la création finalement et en installation d'un univers, tu vois, voilà, je plante les racines de la presqu'ilienne et j'essaye de m'ouvrir finalement sur un autre univers poétique que le mien, mais qui me touche pour pouvoir grandir encore, quoi.
D'accord, ok.
Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? C'est que là, je n'ai pas pensé comme ça parce que je n'ai pas la tête dedans, mais les ateliers cyanotypes vont revenir. Et ça, c'est important parce que j'adore transmettre la technique. Et dès que le soleil pointera son nez et que les UV seront assez forts durant le printemps et l'été, il y aura des ateliers cyanotypes où on ira sur les quais de la Saône avec un petit goûter et on ira créer... Donc voilà, ça c'est aussi le gros projet de l'année. L'année dernière, j'ai testé ça, ça a bien marché et j'espère qu'il y en aura encore plus cette année, les occasions de transmettre et de partager mes histoires de nature, de cyanotype et puis de rencontrer plein de gens.
Super, ah, c'est génial, ouais. Très bien. Et quel conseil vous auriez aimé qu'on vous donne ou que vous souhaiteriez donner vous-même?
De faire exactement, enfin c'est le conseil que j'ai envie de donner, du coup de faire exactement ce dont on a envie, en fait, de pas mettre trop de raisons dans ce qu'on a envie de faire. Moi je fonctionne vraiment avec mes intuitions et juste se laisser porter. Si t'as vraiment envie de le faire et de raconter des choses, vas-y, parce que tant que ça a du sens, ça marchera.
Super, ouais, c'est beau, ça c'est chouette. Ouais. Et toi Auréliane?
Je crois qu'on est raccord avec Émilie, hein, là-dessus, c'est...
Ouais.
L'expression de l'intérieur et de ta sensibilité. Il y a beaucoup de copies. Alors, on fait hyper attention. Quand on a commencé à parler du projet sur le fil, il ne fallait pas que ça sache trop vite parce qu'on voit qu'en fait, sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui s'inspirent et parfois, c'est tellement inspiré que c'est de la copie. Donc, et on a cette... Il y a une philosophie. Puis elle a ce côté très posé, moi, qui me fait vachement de bien. Qui est de dire on a tous une histoire à raconter, on n'a pas besoin de raconter les histoires des autres. Donc effectivement, si vous sentez qu'il y a quelque chose à sortir, l'art est thérapeutique. Enfin, on veut voir l'âme des gens finalement dans leur production. Tu vois, il y a ce truc-là. Donc s'il y a du sens à donner, donnez-le. C'est pas simplement de la création pour la création.
Oui, c'est ça. C'est pas le produit fini, en fait. On s'attache pas à ça. C'est toute la démarche et l'histoire qu'on a envie de raconter. Ce sera la force de chacun dans son procédé créatif, hein, je pense.
C'est ça, on parle d'âme à âme, tu vois, il y a ce côté-là pour moi, l'artistique, tu touches des sensibilités, des choses, c'est pas, comment dire, c'est pas calculé, c'est pas factuel, tu sais pas pourquoi les choses te touchent finalement, tu vois, dans le domaine artistique. Donc, ouais, tu touches les âmes, pour moi il y a une histoire, ouais. donc on parle d'âme à âme. Et puis se reconnaître aussi, parce que du coup, tu te reconnais parfois et tu interprètes dans le travail d'autrui des choses que ça réveille chez toi, qui te donne envie de créer et qui t'insuffle des choses. Et je crois que ma rencontre avec Émilie, ça m'a insufflé tout cet amour de la nature, du minuscule, du végétal. Et effectivement, dans mon jardin, maintenant, je fais attention, je mets les pieds, je remercie les travailleurs. Enfin, tu vois, il y a ce côté... Ouais, une fois, effectivement, le sacré est un peu au centre de tout.
Super. Non, mais c'est... Je me sens très bête, en fait, parce que j'ai rien d'autre à dire que juste, ça fait du sens, quoi, ce que vous dites. C'est super. Vous êtes un régal à écouter. Et alors, pour finir, ma dernière question que j'aime bien poser, c'est quelle est votre plus grande fierté?
Bah, moi, c'est ce projet-là, en fait, parce que je crois que j'ai réussi à mettre... En fait, c'est moi, ce projet Carrasco, c'est tout ce que j'aime. Donc, ma fierté, c'est ça, c'est de m'être écoutée et d'être moi dans... Voilà, Oui, je sais pas. La fierté, elle est là, en fait. C'est juste d'être précisément là où j'ai envie d'être. Et d'ailleurs, je suis venue à Lyon pour ça. J'ai l'impression que c'est la ville, c'est ma ville. Donc je savais que de toute façon, en venant à Lyon, il allait se passer quelque chose. Il faut juste s'écouter et être là où on a envie d'être et faire ce qu'on a envie de faire.
Ouais, vaste programme.
Mais la fierté, elle est là, de trouver cet équilibre. Et là, je crois que je suis à ma place.
Ouais. Super. Et toi, Auréliane?
Alors, c'est vachement dur hein, quand même, comme question, je trouve. Mais je dirais pas la plus grande réussite de ma vie, mais la sensation, en déroulant le fil... d'être au milieu de quelque chose. Tu sais, ma grand-mère était couturière. Elle était née en 1903. Donc, tu vois, elle a vécu 93 ans. Et elle m'a initiée à tout ça. Et lorsqu'elle est morte, j'étais très jeune. J'avais pas 20 ans. Donc, le fil était présent dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux dire que la bobine continue de se dérouler. Tu vois, j'ai cette sensation, finalement, d'être juste le prolongement et d'exprimer ce prolongement de ce fil qui a été fin parce que à certains moments il était dans ma vie mais je le voyais pas donc c'est je tiens le fil et je sais qu'il se déroulera après moi, mais en tout cas voilà, je suis sur le tracé. Je crois que je rejoins Émilie pour dire que je suis finalement là où j'avais envie d'être, donc et dans le monde dans lequel on est, la poésie, alors je veux pas me voiler la face hein, la poésie à sa place partout, donc si j'arrive à m'entourer de gens qui ont cette sensibilité, cette poésie là, je serai fière.
Ouais, très bien. Bon, c'est une super conclusion. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et en plus qu'on soit toutes les trois. C'était vraiment un chouette moment. Je suis ravie.
Merci à toi de nous avoir donné la parole. C'était un chouette moment.
On discutait. Effectivement, c'est ce qu'on disait avec Émilie hier. On suit les vagues finalement de création et là, la création reprenne juste. Mais ça fait du bien d'en parler et de renouer finalement avec cette collection sur le fil, au moins à travers les mots.
Ouais, super. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, vraiment, je suis ravie d'avoir échangé avec vous ce matin. Je pense que je vais être beaucoup plus zen dans ma journée que ce que je... la manière dont je l'imaginais, avec des choses à faire aujourd'hui qui sont pas forcément... Bon, bref. Merci beaucoup, les filles. C'était vraiment, vraiment un chouette moment.
Merci Mélanie.
Allez, à très vite. On vous retrouve donc sur vos profils Instagram, évidemment respectifs. De toute façon, je vous taguerai hein, dans les posts. Et puis donc votre profil Instagram respectif plus le profil Instagram pour la collection sur le fil.
Oui. Super. Un grand merci en tout cas.
Merci à vous. À très vite.
Ça marche, Dali.
Me revoici. Je vous invite à aller découvrir l'univers de Carrasco et la Presqu'ilienne sur Instagram.
Profitez-en pour vous abonner également au compte du podcast. C'est @podcastfaitmain. J'adore quand on s'y retrouve et qu'on continue à parler des épisodes et de création de manière générale. Si vous avez découvert le podcast avec cet épisode, allez vite écouter les autres créatrices avec lesquelles j'ai conversé. C'est toujours ultra riche d'enseignements, je trouve, quel que soit leur domaine d'activité créative. Et si tout ce travail vous plaît, dites-le moi, ça me booste énormément. Vous pouvez le faire en direct sur Instagram, bien évidemment, avec un message privé ou un commentaire sur les publications, ou une story pour partager les épisodes avec votre propre communauté, et bien entendu, un avis et une note, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts ou iTunes. Cela m'aidera grandement à élargir la diffusion du podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter le podcast sur différentes plateformes, dont Spotify, Deezer, YouTube et évidemment Apple Podcasts. Si vous voulez retrouver les marques ou les livres dont on a parlé, rendez-vous dans les notes de l'épisode, sur la publication Instagram dédiée à l'épisode ou sur mon site podcast-faitmain.fr. Merci à tous pour votre présence et à très vite pour un nouvel épisode de Faitmain.